Tu te transformes depuis des heures, tantôt en grenouille, tantôt en sculpture de la Renaissance tardive. Un peu comme celle qui se dresse devant toi, représentant Pierre Dupont, chansonnier du XIXe siècle, selon le Grand Larousse, décorant l'immense portail noir de la préfecture de Lyon. Et tu ressasses ton discours républicain au milieu d'autres sculptures gelées. Tu t'es même quelque peu assoupi sur ton pied droit, position digne d'un modèle vivant, et dans ton demi-sommeil, tu médites la possibilité de tenir la pose professionnellement. La France est un pays rempli de poètes et de peintres, et devenir leur modèle s'avère un métier comme un autre, qui suppose certes d'être nu, mais aussi souple et surtout patiente, ce dont tu sais maintenant être capable. Tu te trouves même d'une patience exemplaire lorsque tu sens un petit coup de coude heurter ton épaule de manière répétitive et tu te demandes s'il est permis de tripoter ainsi un modèle vivant resté patiemment dans le froid pendant des heures. Ça finit par te réveiller et tu constates que A, tu es habillé, B, tu es devant la préfecture de Lyon et C, enfin ton tour, te dit dans la queue une inconnue bien intentionnée, quoique un brin jalouse de devoir, elle, continuer de patienter dans le froid comme une sculpture angoissée. Le bureau est posé sur une estrade qui t'émerveille. La préfecture, le soir, se transforme-t-elle en lieu de spectacle? Par conséquent, la dame assise en vis-à-vis s'élève bien plus haut que toi. Elle te demande assez froidement quelles sont tes raisons de venir en France et combien de temps tu comptes y rester. Tu te lances alors dans ton discours composé à l'aide du grand Larousse et de son frère cadet, le petit Larousse du savoir-vivre. Mais plus la dame fronce les sourcils, plus les informations apprises se brouillent dans ta tête et sortent de manière désordonnée. La France est le pays de la liberté, du fromage et des tramways qui parlent. Un pays où la mode est intemporelle et on ne lèche pas son pouce pour décoller et compter des billets de banque, par exemple. C'est un pays avec plus de 80 millions d'amis, enfin d'animaux domestiques, dont 10 millions de chats, 8 millions de chiens, le reste se partageant entre poissons, petits rongeurs, tortues et oiseaux. En somme, la France n'est pas comme la Bulgarie. C'est un pays où tout est fabuleux, comme Amélie Poulain, et en plus ta mère n'est pas là, et on ne travaille que 35 heures par semaine, et personne ne jette sa poubelle par la fenêtre. C'est pourtant le hasard ou une erreur administrative qui t'ont propulsé dans ce pays merveilleux. Comme une fusée chanceuse, tu as obtenu ton inscription à l'université phare. La France est par ailleurs dotée de plein de peintres et de poètes, La Fontaine, Le Molière et la Sylvie Vartan, justement bulgare à l'origine comme moi, et chanteuse préférée de ma grand-mère, essayes-tu de personnaliser, en expliquant que tu as choisi des études en art du spectacle. Quel meilleur choix, vu le contexte, puisque tu as 9 mois et 2 jours pour prouver à ta mère que tu es une personne sérieuse, que tu peux trouver un travail et in fine réussir en France, sans quoi tu rentrerais dans ton pays tel un Ulysse ultra rapide. La dame de la préfecture effectue un mouvement de tête à peine perceptible que tu interprètes, dans un élan d'optimisme, comme l'expression de ses sentiments distingués, ou au moins comme un adoucissement temporaire. Mais en fait, elle n'est pas du tout contente. Tu étais simplement censé montrer ton inscription à l'université phare. Et maintenant que tu as ouvert cette brèche, la dame décide de t'y enfoncer. Elle te rappelle que tu es étudiante étrangère. Et selon les règles de la République actuelle, tu n'as pas le droit de travailler pendant ta première année d'études. Tu es censé venir dans ton pays avec 25 000 francs au moins sur ton compte bancaire, soit 3 571,42 euros selon les nouveaux standards, et non pas être en plus pauvre. Vous voulez réussir en France, très bien. Mais en quoi pensez-vous être utile à la République? Te lance-t-elle se prenant pour le préfet de police de Paris? Et ça marche bien comme moyen d'intimidation, car tu sens soudain un courant d'air glacial ébouriffer ta mèche et balayer toute ombre de pertinence dans la réponse. Tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu pourrais apporter à la France, puisqu'elle a déjà tout dit-tu à la dame dont la bouche se contracte des deux côtés, laissant entrevoir ses dents. Tu penses alors à ta qualité principale qui te vient tout droit d'une éducation communiste, l'art de faire semblant. Tu te remémores quelques-unes des compétences liées à cette discipline. A. Faire semblant d'être communiste. B. Faire semblant qu'il n'y a pas de problème devant les voisins du palier. C. Faire semblant d'être sobre devant ta mère. D. Faire semblant d'être morte dans un spectacle de fin d'année. En somme, aucune qui mérite d'être prononcée à voix haute. Tu lui réponds que tu espères apprendre qui tu es afin de mieux comprendre les atouts de ton identité et les lui offrir, ajoutes-tu, ébauchant une révérence. La dame lève les yeux au ciel et sans mot dire te dresse une liste de documents à fournir composés entièrement de mots inconnus. Tu en choisis un au hasard et tu demandes avec enthousiasme ce qu'un RIB veut dire. À la suite de quoi, le bureau de la dame se met à trembler. Puis elle commence à gonfler comme un ballon au-dessus de ta mèche ébouriffée, si longuement que tu as l'impression qu'elle triple de volume, puis te propose dans un râle semi-humain de revenir au guichet de la préfecture quand tu auras appris le français. Enfin, elle balance le dossier dans ta mèche et t'ordonne de libérer la place, te laissant seule face aux énigmes linguistiques. Tu as beau relire le mot « rib », la seule chose qui t'évoque en ce moment, c'est un poisson, riba, en bulgare. Et en court instant, tu imagines revenir avec un brochet pêché dans la Saône ou au moins une boîte de sardines à échanger contre le droit de séjourner sur cette nouvelle planète curieuse. Les Français sont petits de taille, ont la fine bouche et de grandes gueules. C'est Rada Goranova qui te l'a appris dès ta première semaine à Lyon, deuxième ville en France. Autant être prévenue. Tu trouves qu'elle exagère un peu quand même. C'est vrai, ils se moquent parfois de ton accent, mais c'est pour être gentil. Et tu adores cette manière qu'ils ont de mythifier tes origines en t'appelant une fille de l'Est. Que tu achètes une baguette ou que tu donnes l'or à des inconnus dans la rue, ils te demandent toujours d'où vient ton petit accent et se réjouissent que tu sois une fille de l'Est. Rada Goranova précise que ça n'a rien à voir avec la mythologie et que, de toute façon, les Français ont des petits pieds qui puent. Elle dit qu'ils ont aussi des petites bites, même si on ne peut pas se fier à sa base de données. Elle conclut que c'est à cause de leurs petites bites et leurs petits pieds puants qu'ils en veulent tant à la terre entière. Les rues, en revanche, sont parfaites, essayes-tu de positiver. Parfois, tu remarques des trous, mais dans l'ensemble, ça correspond à ce que tu avais vu dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, même si ça se passait à Montmartre, gesticules-tu, lieu de visite incroyable. Puis tu apprends l'existence de plein de mots en français qu'on ne t'avait pas enseigné dans ton lycée à Sofia. Tu commences même à les compiler dans un dictionnaire personnalisé, comme le mot « rib », entre autres. Et Rada Goranova te précise que cela n'a rien à voir avec la faune aquatique et que tu nages en plein délire. Tu peux te perdre dans la ville parce que tu ne la connais pas, enchaînes-tu sans broncher. Tu ne connais personne non plus, mais cette solitude est synonyme de liberté, digresses-tu. Et c'est exactement ta mission, devenir libre puisque ta mère n'est pas là. Par ailleurs, les boîtes postales sont jaunes. Aucune trace de rouille et surtout, il y a un tramway qui parle, cries-tu dans le visage interloqué de Rada Goranova. En somme, la seule voix qui s'adresse à toi en français. Ça fait des jours que tu le prends, sans savoir où il te mène. Tu t'en remets entièrement à la dame à la voix suave qui décide de ton destin et énonce des noms paradisiaques. Esplanade des Arts, Porte des Alpes, Liberté, décidément. Rada Goranova te conseille de noter tous ces détails qui t'émerveillent tant, car dans 2 semaines grand max, tu ne verras que la laideur de ce trou paumé plein de bourgeois prétentieux et coincés du cul, et tu auras envie de te transformer en vaisseau spatial et de te casser sur Mars, ou au moins à Berlin ou à New York. Elle n'a pas encore décidé. Ici, à Lyon, on a l'impression que tous les jours c'est dimanche, et en outre, il pleut constamment, s'énerve Rada Goranova, piétinant sans relâche ton remarquable enthousiasme. La France n'est pas un film et Amélie Poulain est une pauvre meuf, continue-t-elle avec férocité. Heureusement, Rada Goranova traîne avec des gens trop cool, des Bulgares à chiens et d'autres punks qui font tout le temps la fête et les ou les révolutions, sinon elle serait morte depuis longtemps d'ennui ou de dégoût. Tu te demandes furtivement s'il est bon de trop fréquenter cette Radagoranova qui ne fait que broyer du noir. Pour résister à cette hôte qui tente d'inspirer toutes tes nouvelles découvertes, tu les documentes dans une liste intitulée « Les merveilles de la France ». Ta mère n'est pas là. Les trottoirs sont parfaits. Tu n'as besoin de personne. Est une peste. C'est ainsi que Dora a surnommé Maria, qui n'est pas du tout sa belle-sœur, mais sa proxénète par procuration. Elle rapporte tout à Dimiter, qui les appelle quotidiennement. Grenet ne s'aventure jamais à hausser la voix, ne s'aventure jamais à frapper Dora non plus. Grenet procède avec beaucoup de diplomatie pour que sa compatriote retourne tapiner jour après jour dans le quartier délabré de la gare de Perrache, leur nouveau lieu de travail, le seul autorisé pour les Blanches de l'Est. En effet, Dora et Maria partagent le trottoir avec des filles d'un âge aléatoire qui parlent des langues slaves. On se croirait dans un office de tourisme des Balkans tenu par des adolescentes écervelées, peste Dora, pour tuer le temps. Les Françaises, elles, ont le monopole du deuxième arrondissement, le centre-ville chic. Enfin, c'est toujours mieux que tapiner dans le bois. Grenet lui pique la plupart des clients en roulant fort les airs et Dora a tout le loisir de se perdre dans ses pensées apocalyptiques. Et quand elle travaille, les billets disparaissent dans la poche de Grenet, même si c'est grâce aux fesses de Dora. De son côté, Maria l'assure que cette somme-là sera transmise directement à son fils en Bulgarie et Dora ne peut que faire confiance. Les soirs où il ne se passe rien du tout, Dora s'amuse à faire des jeux de mots dans sa tête ou à dresser une liste imaginaire des passes afin de structurer son apprentissage. Elle en est à trois différentes. La passe express, la passe où rien ne se passe, la passe mensongère, mais elle ne la maîtrise pas encore. Il y a aussi Oui, oui, chérie, dont le vrai nom de pute est Priscilla, qui travaille de l'autre côté du quai. Dora étudie cet étrange animal au poil brun dont le profil lui échappe pour le coup. Oui, oui, se pose tous les soirs sur des talons qui foutent le vertige, dénudés, comme même l'hiver, et Maria s'inquiète qu'elle n'aille pas attraper la méningite. Elle a son propre 4x4 et assez d'argent pour se faire les nichons aussi gros que deux pleines lunes, pense Dora. Quand Oui, oui est de bonne humeur, elle ouvre sa portière et met de la samba et d'autres musiques de son pays et fait valser ses pleines lunes artificielles. Elle doit en être 18 000 pipes, ricantant à l'Office du tourisme des Balkans. Ça colporte aussi qu'elle a dû voler sa Jeep de merde et que c'est un sale pédé. Mais Dora a appris la comptabilité dans sa jeunesse turco-bulgare et on ne la lui fait pas à l'envers. Il y a un secret bail que cette personne extraordinaire travaille sans proxénète et Dora se demande à son tour comment se débarrasser de Dimiter. Il faudrait sans doute commencer par gronner la peste. Le jour pour commencer à arriver en France est arrivé. Mais tu es d'emblée perdu, ne trouvant pas ton université phare sur la carte. Heureusement, Radagoranova va au même endroit et tu peux, comme d'habitude, te coller à elle. Pendant qu'elle se prépare, tu en profites pour te renseigner dans le Grand Larousse. L'université phare compte plus de 27 000 étudiants, dont 11% d'étudiants étrangers, l'ITU ravit de faire partie d'une statistique. Mais l'extase de cette découverte est brève, car on est méga en retard, dit Rada Goranova en soupirant dans tes oreilles. Le cinéma est mort, a dit un certain Gourdard, explique ton tout nouveau professeur aux petites lèvres, et tu te dis qu'il serait plus sûr de t'inscrire aussi en anthropologie au cas où. Le cinéma est mort est une phrase que tout le monde a l'air de connaître, à en juger par les têtes autour de toi qui s'empressent d'opiner, afin qu'on les distingue par leurs connaissances. Et tu te demandes où sont les 11% qui, comme toi, ne connaîtraient pas la référence. On commence par une séquence de Pierrot le Fou, de ce même Godard, cinéaste contradictoire de toute évidence, avec Jean-Paul Belmondo, qui lui est bien vivant, et Anna Karina, dont tu détectes l'accent inconnu. Tu te demandes quel serait le pourcentage d'actrices étrangères dans le cinéma mort des Français, si on devait en faire une statistique. Ton professeur s'excite sur une anecdote de tournage. Les rôles principaux devaient au départ être tenus par Michel Piccoli et Sylvie Vartan. Et tu te demandes si ce n'est pas le bon moment pour descendre au pied de l'amphithéâtre et annoncer publiquement que toi aussi tu es bulgare, en invitant les autres étudiants étrangers, impressionnés par ta prestance, à se manifester à leur tour. Mais à peine le temps de traduire cette annonce en français dans ta tête, vous avez déjà changé de film. On regarde désormais un extrait de « Deux ou trois choses que je sais d'elle », pellicule de ce même Godard contradictoire. « C'est un récit sur elle », dit ton professeur aux lèvres humides. « Mais elle, ça peut être la femme, mais surtout la ville ou la société en général. » Des femmes, parfois prostituées, parfois esthéticiennes, et parfois clientes d'un café, s'expriment sur la question de l'urbanisme, du langage, du spectacle, de la mort. Mais la seule femme dont on ne comprend pas un mot, ce qui fait bien rire tout l'amphithéâtre et ton professeur aux lèvres absents, c'est la jeune fille qui parle en serbe ou en polonais. Elle est également la seule qu'on voit nue. La situation semble très comique. La fille qui parle en slave est dans son bain. Elle passe du savon sur ses seins nus, puis se relève quand quelqu'un frappe à la porte comme si de rien n'était, comme si elle n'était pas là. Lui entre, cigare à la bouche, et lit un article de journal pendant qu'elle crie sans avoir droit à aucun sous-titre. Votre professeur aux lèvres filiformes précise, hilar, que Godard mettait toujours une scène avec une fille à poil, expression inconnue, pour satisfaire ses producteurs. Tu te demandes si cette fille de l'Est est la seule à avoir accepté de satisfaire les producteurs de Godard ou si c'est elle qui les satisfaisait au mieux. En tout cas, tu te félicites d'avoir mis un gros sweat à capuche qui cache bien tes seins en espérant qu'il cachera ainsi ta bulgaritude tout entière. Tu hoches frénétiquement la tête en ricanant pour faire semblant d'être française. Il est temps de changer cette robe de grand-mère. Ça vaut le coup d'investir et Gronet choisit la boutique Jolie à Villeurbanne. Là-bas, elle achète pour Dora deux hauts mollets, une mini-jupe noire, une robe rouge très décolletée, du maquillage à 2 €, des chaussures rouges laquées. Saura-t-elle marcher sur ces plateformes ? Gronet cherche des terrains d'entente. Dora ne répond pas. Déstabilisée pas tant par la hauteur des talons que par le brusque changement de comportement de Gronet, dont il lui faut se méfier davantage. Le soir, Maria poudre les joues de sa protégée au milieu de la chambre finement éclairée par la lampe multicolore de sa grand-mère. Dora voit ses traits disparaître dans un nuage cheap de terracotta et de poussière. Puis de nouveaux traits surgissent. La main de Gronet opère avec la précision d'une pâtissière. Elle fait ressortir des pommettes tranchées, des lèvres menaçantes agrandies par un rouge bordeaux, des yeux de chatte au crayon noir, des paupières brillantes dorées. Devant le miroir, Dora s'immobilise à la découverte de la créature en face qui, affolée, la dévisage. Grenet contemple avec ses yeux malins, rigole quand Dora fait sa tête ahurie, puis s'applique elle aussi du rouge, du blush, maquille ses yeux, se range aux côtés de Dora, prend une pose sexy et une fois définitivement transformée, se met à chantonner. La chanson évoque Dora les soirées moites de leur village et la gaieté de Grenet la contamine. La voilà qui rit derrière son masque, de plus en plus fort. C'est encore mieux que les rituels d'Arifé pour expulser les chagrins. Sous le tas de fringues, Maria déterre une bouteille de rakia qui n'est pas là par hasard. Deux verres sont remplis, malgré les tentatives de refus d'Odora. Puis la lampe donnant si belle allure à la scène, sans même s'en rendre compte, Dora boit et danse, main dans la main, avec sa si gentille ennemie, tandis que les voisins du dessous tapent contre le chauffage collectif avec leur balai. Dora est bluffée par ce corps qu'elle avait oublié. Ce soir-là, il sentit tout entier. Il est plus arrogant encore. Elle virevolte dans sa robe rouge coquelicot, rouge Lénine, rigole Dora. Il lui semble que sa compatriote, en revanche, est plus candide avec ses couches de fond de teint, comme si le maquillage avait effacé sa parure de proxénète miteuse. Ou alors, c'est cette joie soudaine qui la rend plus belle. Dora commencerait presque à regretter de lui avoir versé des somnifères dans la rakia, mais il ne faudrait pas laisser cette stupide complicité naissante compromettre son projet. Deux ou trois verres plus tard, Grenet s'effondre par terre et son rouge à lèvres bave sur ses joues. Dora fourre des capotes, des mouchoirs et du maquillage dans son sac, se verse un peu de rakia dans une petite bouteille en plastique au cas où, avant de fermer doucement la porte. À peine arrivée, une voiture ralentit à la hauteur de Dora. Deux jeunes la sifflent, puis lui adressent des injures qu'elle comprend mal. Dora maintient la cadence, tout en gardant la vision périphérique sur eux. Quand ils baissent la vitre, elle esquive d'un mouvement la bouteille qu'on lui lance. Le projectile s'éclate sur une autre voiture en brisant la vitre côté chauffeur. Dora sursaute et s'esclaffe, transformant sa terreur en euphorie, et son rire résonne dans le terrain en face. Les mecs ricanent bêtement à leur tour et disparaissent en accélérant. Aucune de ses collègues dans les parages. Dora se sent seule. C'est agréable et étrange à la fois. Elle voit la voiture de Oui Oui Chérie, mais elle a du mal à discerner sa silhouette. Pourtant, la lumière est allumée. Un chat s'est posté pas loin et observe les mouvements de Dora. Et si elle avait mis trop de somnifères dans le verre de Maria, s'inquiète Dora, quand un client l'aborde timidement. La cinquantaine, modeste, propre, et lorsqu'elle la voit en annonçant le prix, puis le finit sur le parking des bus, en 2 minutes 30, passe presque express. Elle se félicite de l'assurance de ses gestes, de sa force nouvelle, de ses mains qui ne tremblent plus. Elle a l'impression d'avoir accompli quelque chose de sensé et que tous ces kilomètres de larmes n'étaient pas pour rien. Elle sort la bouteille et la vide cul sec. Elle recompte et range les billets, célébrant son premier salaire rien que pour elle. En moins d'une heure, deux autres clients demandent ses services. Un mec qui a du mal à bander, pipe et passe molle, il lui a laissé un bon pourboire et un souvenir de culpabilité. Puis un jeune homme un peu agité, mais dès que Dora pose sa main sur sa braguette, il redevient calme comme le lac de Mirabel. En face, les néons de la boîte duplex se reflètent sur Dora. Sa peau est violette, zébrée par endroits, les anciennes éraflures du chêne scintillent. Elle regarde la lune et la remercie pour l'accueil. À la place du chat maintenant, une tache humide. Dora s'étonne de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Une musique entraînante s'échappe du duplex. Dora bouge comme dans un rêve. Quelle joie d'être une parfaite inconnue, pense-t-elle en souriant. Et voilà que son corps ondule et se déchaîne dans la rue, libéré de toute routine. Une voiture ralentit dans le dos de Dora, qui continue de valser sans rien remarquer. Deux hommes en sortent, se marrant du spectacle. Pendant qu'ils s'approchent à pas longs de vieux le frustré, le chat fait un bond dans leur direction. Surpris, l'un d'eux sursaute et Dora sort d'un coup de sa transe. La fête est finie. Déclinez votre identité, ordonne celui qui arbore un brassard police par-dessus son pull. Une feuille ocre rouge s'est décrochée de l'arbre et atterrit dans les cheveux du policier, lui donnant un petit côté frivole. Les deux agents lui demandent des documents qu'elle n'a pas. Cela lui rappelle cette matinée dans son village, il y a 11 ans, lorsqu'on lui avait annoncé que ses papiers n'étaient plus valables parce que le nom qui y figurait n'était plus autorisé. Elle avait dû choisir une nouvelle identité. Maintenant, elle en a plusieurs à la fois. « Je m'appelle Dora », a-t-elle répondu, un sourire poli au coin des lèvres, avant de jeter « Mon identité perdue ». Bonjour, 69 n'est pas une revue pornographique. C'est le journal des petites annonces de la région. Tu en as justement posté une pour trouver un job, même si tu sais bien que tu n'as pas le droit. Sur ce point, la dame de la préfecture avait été catégorique. Étude slave CHH ménage est ta première phrase publiée en France, qui gît tristement sur la page imprimée, tel un corps haché et oublié sur une route. Elle t'a été insufflée par Lily, qui a trouvé beaucoup de travail grâce à cette formulation. Et tu te demandes si préciser ses origines quand on cherche un travail est toujours une bonne idée. Le résultat est époustouflant. Ton nouveau combiné orange ne cesse de sonner. Tu as droit à plusieurs appels anonymes de personnes qui, sans mot dire, respirent avec intensité. Et tu finis par croire que ton nouveau combiné est défectueux. C'est des mecs qui se branlent sur ton accent, te rassure Rada Goranova, mais tu la trouves vraiment trop cynique parfois. Un jour, enfin, une voix retentit, une voix de femme, chaleureuse et dynamique, et qui en outre souhaite t'embaucher, pour le ménage donc, mais avant cela, elle aimerait connaître tes mensurations et les choses se gâtent. Tu dis que tu es capable d'entrer dans n'importe quelle petite pièce, car très souple. La femme sympathique ricane et dit « Parfait pour la souplesse. » Tu te demandes si elle t'a bien compris avec ton accent. Elle rit en disant que c'est toi qui as mal compris. Après un moment de perplexité, tu te mets à respirer avec intensité dans le combiné orange et ne trouvant aucun mot français de secours, tu décides de raccrocher. Tu repostes une nouvelle annonce dans le journal en enlevant « slave » et cela se passe beaucoup mieux. Tu as dorénavant une montagne de chemises à repasser, plusieurs cuvettes de toilettes à récurer et même le sol d'une bijouterie située place des terreaux où il ne faut pas jeter la poussière car elle est pleine d'or. À la fin de ce mois magique, tu as un terrible mal de dos et une somme d'argent assez maigrichonne. Quant à Lily, tu apprends qu'elle a donné ses mensurations. Par conséquent, elle travaille comme entraîneuse dans une boîte de champagne où elle gagne 5 fois plus d'argent que toi et finit régulièrement saoule. Tu te trompes souvent. Tu remplaces « très » par « grave » dans une phrase au registre soutenu et tu dis « bien à toi » à tes voisins de palier. Des faux amis rendent ton vocabulaire imprécis ou impressionnant selon les situations. Tu dis par exemple « oblique » pour signifier « rond » parce qu'en bulgare on dit « ovale » qui a sans doute une origine commune avec « ovale » supputu, trouvant confortable le refuge de l'étymologie. Ainsi, des lunes et des gens obliques peuplent tes phrases, ce qui étonne beaucoup ton entourage et te vaut une réputation de personne étrange. À la place de récépissés, tu comprends les épicés et tu confonds radier et irradier, ainsi que sentier et sentinelle. Quand tu entends le mot nonchalamment, tu salives pour des chamallows. Parfois, tu te demandes s'il est vraiment question de casser du sucre sur le dos du voisin. Tu confonds rituel et expression, mœurs et deuxième degré. Tu es littérale et hésitante, alors que dans ton pays, tes blagues avaient de l'allure. Parfois, tu fais exprès. C'est la seule manière que tu as trouvé d'être drôle. Quand tes erreurs sont volontaires, ça te donne un sentiment d'égalité. Vous pouvez, ensemble et au même titre, vous foutre de ta gueule, bien à toi. Deux ans après votre rencontre, Dora avait été expulsée après un contrôle de police. Tu n'avais plus jamais eu de ses nouvelles. Tu gardais en souvenir cette autre Bulgarie qu'elle t'avait racontée, et aussi sa manière de s'accrocher aux situations les plus incongrues, les plus violentes, avec comme seul moyen de défense son ironie et ses expressions fleuries. Tu ne savais pas bien comment parler à cette femme si différente de toi et pourtant si proche par moments. Tu te souviens l'avoir filmée lors d'une brève séance de réalisation et tu repenses aujourd'hui à cette seule image qui te reste d'elle, un peu moins floue peut-être, quoique. Pourtant, ce n'était pas pour archiver que tu cherchais tant à faire son portrait. Plutôt parce qu'elle était de celles qu'on ne montre pas, de celles qu'on évite de voir, de celles qui ne se sentent jamais à leur place. Parce que dans ton pays, tu n'avais jamais parlé à une Turque bulgare, ni à une prostituée. C'était ta seule façon d'ouvrir un espace rien que vous, un espace où vous pourriez vous regarder. Merci.
Merci beaucoup à toutes les deux. Et donc ce livre, on a une petite vingtaine de minutes, et effectivement c'est toujours particulier après de s'adresser à quelqu'un qui vient de nous livrer une performance, et face à un public qui vient de traverser quelque chose. Il y a néanmoins quelque chose de très simple à situer et qu'il est important de remettre dans l'ordre du livre, c'est-à-dire qu'on a bien entendu, il y a deux voix. Il y a prédominance là de la deuxième personne, le tu, et il y a Dora qui elle est racontée à la troisième personne. Il se trouve que ce tu, me semble-t-il, est la continuité du tu du premier roman que j'évoquais tout à l'heure, qui racontait, pour le dire vite, une enfance en fait en Bulgarie à hauteur d'enfant, et qui jusqu'à après la chute du mur, donc tout ce qui précède cette arrivée en France, finalement. Donc ce serait en quelque sorte, et très simplement, la suite, sauf que puisqu'il y a deux voix, ça raconte deux histoires dont on entend un peu à la fin qu'elles vont se rejoindre d'une façon inattendue. Et ma question sera ce qui va te permettre de le situer, tout ça. Comme je disais aussi, ça a mis longtemps à se faire parce que tu fais beaucoup de choses. Mais sans doute qu'il fallait ce temps-là pour ne pas être dans la singerie du premier et dans le, même s'il y a beaucoup de sourires, dans le type de sourire du premier où, encore une fois, le regard de la petite fille nous faisait voir les choses avec une forme de malice qui, ici, on l'a entendu, il y a de l'humour et de l'ironie, mais il y a de la gravité aussi. Et comment ça s'est mis en place? C'est-à-dire, est-ce que tu as su tout de suite que tu allais faire les deux portraits en parallèle? Parce qu'il me semble vraiment que c'est, voilà, les deux se font exister, il y a une complémentarité effective.
Oui, en effet, j'ai pris du temps et je trouve que c'était pas mal puisque ça permettait de réfléchir sur comment rendre ce récit par l'écriture, puisqu'en fait, c'est... Moi, mon désir au départ, c'était de raconter la trajectoire d'une travailleuse de sexe bulgare, parce que, d'une part, je me suis rendu compte que c'était un récit qui était très absent dans la littérature en France, mais aussi de la littérature en Bulgarie. D'ailleurs, c'est en Bulgarie que j'avais eu l'idée, puisque j'avais entendu un commentaire extrêmement méprisant sur des prostituées, et je m'étais rendu compte que oui, c'était absent. Moi qui avais lu en France des autrices comme Griselda d'Israël ou comme Virginie Despentes dans un autre registre, mais on n'avait pas ces voix-là en Bulgarie. Donc voilà, ça c'était le point de départ, et il se trouve que j'avais moi-même rencontré, quand j'étais étudiante à Lyon, il y a 20 ans, via des amies féministes qui aidaient les prostituées. J'avais rencontré des femmes qui travaillaient et qui, donc à l'époque, j'avais traduit, mais donc, comment dire, et encore aujourd'hui, une de mes meilleures amies travaille dans ces associations. Donc, en fait, je ne me sentais pas non plus totalement comme si je débarque dans un milieu que je ne connais pas. Alors, je ne connais pas beaucoup de choses, mais enfin, ça, c'était en tout cas une porte d'entrée qui était assez spontanée et facile pour moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Dora dans le roman et qui m'a confié, offert son histoire que j'ai écrit. Et donc, au tout début, j'ai commencé d'abord à retranscrire ce témoignage et à penser ce récit qui, pour le coup, est la troisième personne, très différent du temps dans Les Cosmonautes, et est beaucoup plus romanesque, peut-être plus classique, enfin quelque chose de plus narratif en tout cas. Et après, j'avais besoin d'introduire cet autre regard, justement, pour aussi mettre des nuances, pour montrer d'où on regarde justement ces femmes, enfin peut-être rendre quelque chose de réel de mon point de vue dans la vraie vie. Et donc j'ai inventé cet avatar de l'étudiante. Et là, franchement, j'ai essayé d'écrire la première personne, mais je n'ai pas réussi. Et je crois que je ne sais pas si je vais réussir un jour. Je m'inquiète un peu. Mais en tout cas, j'ai écrit la deuxième personne. Cette partie, comme vous l'aurez peut-être vue, elle est en tout cas dans l'envie emprunte volontairement un ton burlesque, enfin, où tout est beaucoup plus exagéré, puisqu'elle est exagérément naïve, cette étudiante. Et en contraste, en contrepoint, il y a sa meilleure amie, Rada Goranova, elle va devenir au fur et à mesure sa meilleure amie, mais qui, elle est tout le contraire, elle est très misandre, elle dit les choses. Donc en fait, ça permettait de créer ces contrastes et de les travailler dans le roman.
Oui, l'humour qui permet ce phénomène littéraire qu'on appelle l'estrangement, c'est-à-dire regarder les choses depuis un autre endroit pour nous les faire voir, hein, comme procédé littéraire. Ce qui était à l'œuvre, en fait, aussi dans le premier, puisque le point de vue d'une enfant face à la fiction totalitaire, c'était aussi ça en permanence, ça la mettait à nu. Et je pense que ça permet de prolonger ça. J'en veux pour exemple, on entendait dans le texte à un moment une allusion ironique de son ami qui dit « Mais les filles de l'Est... Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. » Et le texte travaille en lui-même là-dessus, sur les représentations. Ça permet en creux de nous dire, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir lu en me disant, mais c'est vrai. C'est vrai que si on nous dit filles de l'Est, nous, de là, on a une part de nous, aussi bien intentionnée soyons-nous, qui a ce cliché dans la tête. Voilà. Et donc de travailler sur les représentations à cet endroit-là. Et il me semble vraiment que les deux permettent, enfin que finalement c'est le portrait burlesque de l'étudiante qui permet de dire avec une autre forme de force à quel point la situation déjà d'oppression en soi, de vie très dure, et on l'a entendu littéralement, mais aussi de déconsidération de ces filles-là est terrible.
C'est vrai que ce que, en tout cas, vie l'étudiante, c'est beaucoup plus proche d'une expérience qui a fortement traversé mon long séjour en France. C'est vrai que, et donc tu dis fille de l'Est, mais c'est pareil pour Bulgare. En fait, il y a très peu de choses que cela évoque dans la tête des Français, à part éventuellement un yaourt à Carrefour. Et encore, on ne sait pas trop pourquoi, en quoi il est différent du français. Et donc, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de possibilités, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que quand on dit qu'on est Bulgare, ça va tout de suite avec... on sait qu'en face, on va peut-être convoquer, en tout cas, un imaginaire qu'on va nous coller une étiquette et que ça va venir avec une hypersexualisation de nos origines. Enfin, c'est clairement ça. Et d'ailleurs, moi, dans le roman, l'étudiante, elle est donc très naïve. Elle fait une vraie recherche, une vraie mémoire sur les filles de l'Est, pensant que ce sont des Amazones ou des espèces de déesses, s'imaginant toute une mythologie dans sa tête. Dans la vraie vie, moi, j'ai fait une recherche à la BNF en tapant le mot bulgare. Et j'ai un peu vu ce qui s'est passé dans les médias. Et donc rien. Pendant l'époque communiste, on a oublié ce pays. Et après, en effet, dans les années 90, bulgare, hein, ça évoque des articles sur la prostitution ou la mafia. Donc voilà, ça rend compte d'une réalité, d'une part, mais aussi d'une difficulté où se trouvent toutes les femmes qui sont originaires d'Europe de l'Est, à qui on va coller ces étiquettes.
Et alors, ce que ça permet de décrire, c'est, je parlais d'estrangement, mais aussi une multiplicité d'éléments de domination. C'est-à-dire qu'à elles deux, elles sont effectivement à la fois étrangères, femme, fille, de l'Est, et pour l'une prostituée, et pour l'autre ignorante. Ignorante des représentations, et l'exemple de Godard, il est très intéressant à cet endroit-là, parce qu'effectivement, il apporte, comme on le disait, du sourire. Enfin, voilà, c'est évidemment très drôle, cette traversée-là. Et en plus, littéralement, c'est comme si tu reprenais la stratégie qu'elle énonce, c'est-à-dire jouer de l'ignorance de ce que ça fait pour produire un effet comique, pour dire à quel point il y a une domination là-dedans. Là où je veux en venir avec l'exemple de Godard, c'est que là où je trouve très intéressant, plutôt que de... Oui ou non, Godard, c'est pas Godard qui est en question là-dedans, mais c'est tout un système et de représentation. Alors, c'est pas pour le royal actualité, mais en plus, le cinéma a produit des représentations effectivement dominantes. Mais au-delà de ça, c'est le savoir, c'est le symbole. C'est-à-dire que, en plus de tout ce qu'il y a déjà, la préfecture qu'on a entendu, il y a une réassignation à l'ignorance de la part du milieu intellectuel, disons. C'est-à-dire qu'en plus de toutes ces assignations-là, il y en a une autre qu'on aurait pu faire à un garçon provincial qui n'aurait pas ses premiers handicaps-là, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'exemple de Godard, il est très intéressant à cet endroit-là aussi. C'est comme encore une réassignation supplémentaire.
Ah oui, je suis d'accord que c'est une espèce d'accumulation des... soit des humiliations ou soit des dominations, comme tu dis. Enfin... je pense que pour le coup, toutes les jeunes étudiantes qui découvrent le cinéma, après peut-être qu'elles ont au moins les références culturelles, politiques et de tout ce que autre peut évoquer les films de Godard, mais c'est vrai que tels qu'il est enseigné, évidemment que ce n'est pas une critique à tout Godard, mais c'est vrai que quand on étudie en cinéma, ça arrive souvent que des professeurs citent Godard complètement sortis du contexte et du coup, on est face à des phrases qui ne veulent rien dire. Comme le cinéma est mort, ça c'est vrai qu'on aime bien le répéter. Il y a en effet cette... on a du mal en tout cas à cet âge-là à trouver une place dans ce cinéma qu'on nous montre quand on est une femme de manière générale, mais quand en plus on vient d'ailleurs, c'est encore plus compliqué. Et là, c'est une malheureuse coïncidence, mais qui est vraie dans deux ou trois choses d'elle que je sais, que je sais d'elle. C'est exactement ça. Enfin, la fille de l'Est, elle est totalement ridiculisée en fait, tournée en dérision.
Et là où j'en reviens à l'étrangement, c'est-à-dire que ça nous montre quelque chose qu'on ne sait pas voir de l'intérieur, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce point de vue-là, de celle qui a galéré pour et qui nous permet à nous tous, c'est un homme blanc qui parle, de voir ce qu'on... de nous déciler les yeux, si j'ose dire, de voir ce qu'on sait être là mais qu'on ne voit pas.
Tant mieux. Non, mais c'est vrai. Enfin, si j'arrive à mettre cette place, si j'arrive à transmettre ce ressenti-là, c'est le but. Et le fait que le personnage est naïf, bien sûr, c'est une manière de cacher un peu le chemin par lequel on va passer pour la suite du roman, qui n'est pas du tout si candide que ça.
Et l'humour est une arme, enfin c'est un cliché ce truc, mais tout de même cet humour sur le malentendu, sur les mots, sur l'accent qu'on a entendu dans un des derniers textes, effectivement absolument drôle à cet endroit-là, c'est un vieux terrain. Moi j'ai recherché parfois sur le web une performance que vous aviez fait à deux avec Aliona Gloukova, un petit truc comme ça sur YouTube à la maison autour du bord, où qui se terminait là-dessus, sur cette histoire d'accent. Effectivement charmant et exotique, et donc vous jouiez sur les deux aspects, c'est-à-dire de le dénoncer avec le sourire, mais pour le dénoncer quand même, cette stigmatisation.
Oui, c'est vrai. Donc, on avait fait cette mini-performance où, voilà, on expliquait une fausse théorie du Borsch. Ça, c'était un peu dans les années où j'aimais bien raconter n'importe quoi et appeler ça une performance. Mais oui, bien sûr, c'était aussi dans le même volonté de... Alors, avec Aliona, on a beaucoup réfléchi sur cette question de qu'est-ce qu'on vit étant entre plusieurs langues et qu'est-ce que nous, en plus, en tant qu'autrice, comment ça se passe dans notre écriture. Et il se trouve que j'ai fait mon deuxième documentaire sur cette expérience-là en prenant elle comme exemple qui écrit donc son premier roman en langue française alors qu'elle est biélorusse et connaît très peu la langue. Et le but était vraiment après là c'était vraiment de mettre en image cette réflexion de la langue. Ici dans le roman c'est un terrain plus facile pour moi parce que je peux plus facilement être de nouveau un peu juste ironique, mais aussi rendre compte de cet imaginaire qui se déclenche quand on ignore les expressions, par exemple. Et c'était déjà présent dans Les cosmonautes ne font que passer. Au final, mon premier roman, c'était du point de vue d'un enfant qui ne comprenait pas les expressions, par exemple, que la chute du mur de Berlin, enfin, elle ne comprenait pas c'est quoi Berlin, etc. Donc c'est vrai que quand on est enfant, on est un peu exclu de cet imaginaire des adultes. Et ça revient au même quand on est étranger. Enfin, on prend les expressions au pied de la lettre et on est propulsé dans des films un peu bizarres dans notre tête. Et voilà, donc c'était ça qui m'intéressait aussi, de comment cette fois je peux m'en amuser aussi.
Et ça produit de l'humour, et je cite juste Aliona au passage, ça produit chez elle quelque chose de l'ordre du poétique, qu'elle a décidé d'ailleurs d'assumer, on en parlait ici l'année dernière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça reproduit du langage retour, c'est-à-dire que couper court à l'ironie qu'on entendait du milieu dominant, ou couper court à donc être au pied de la lettre, à la métaphore, ne pas la comprendre, ça permet d'un point de vue poétique de regarder la langue en fait. À tout lecteur aussi, ça nous permet de redécouvrir encore une fois, décider, mais d'une autre façon, un angle beaucoup moins politique, mais d'avoir un autre regard sur notre propre langue.
Oui, en tout cas, nous, quand on écrit, on cherche des manières de se créer une autre langue qui serait plus originale. Enfin, en tout cas, on travaille. Moi, j'ai l'impression que même en bulgare, j'aurais travaillé l'étrangeté ou dans la langue. Et c'est vrai que quand on est étranger, c'était en tout cas un moyen, et je pense pour Aliona Glukova aussi, de justement utiliser ces contraintes et d'en faire quelque chose, d'en faire un effet, une force. Et après, c'est toute la difficulté de voir aussi comment notre décalage, Aliona dirait déplacement, comment ce déplacement, on peut le travailler, l'adopter, le façonner mieux pour que ça devienne en effet un outil et non pas juste rester à côté. Voilà.
Et une dernière question, là, de nouveau d'ordre peut-être plus politique et sans prendre le grand mot d'intersectionnalité ou de convergence des luttes. Il y a quelque chose qu'on entendait, je me permets de le poser parce que c'était dit à la fin et c'est à la toute fin du livre. Donc je ne savais pas si je pouvais la poser cette question-là, mais je la trouve super intéressante. C'est-à-dire que paradoxalement, ces deux bulgares qui vont se croiser dans le livre, à un moment, il est dit, et on l'a entendu, jamais je ne l'aurais rencontré en Bulgarie. C'est-à-dire que, non pas dire que c'est déjà ça, mais il y a dans ce qu'elles subissent toutes les deux, à cet endroit-là, au moins quelque chose à en tirer, qui est que d'autres formes de domination sont, de lutte des classes, on va dire. C'est-à-dire que c'est les classes sociales qui les auraient empêchées de se rencontrer en Bulgarie. Là, étant déconsidérées à plein d'autres endroits, elles se rencontrent alors que cette rencontre n'aurait pas été possible. S'il y a au moins, en tout cas, quelque chose d'heureux dans ces deux destins tragiques, c'est ça qui me semble très intéressant et pour le coup être possiblement une arme d'émancipation par la suite.
Oui, moi je pense que quand on est... c'est un peu l'exil qui permet de rencontrer des personnes très différentes et de comprendre mieux leur situation. Moi, je pense qu'en arrivant ici à 18 ans, j'ai appris énormément. Mais j'ai appris aussi de par ma condition d'étrangère et des autres étrangers que j'ai rencontrés et de cette expérience un peu humaine. Voilà. Après, c'est vrai que Bah oui, en Bulgarie, je pense que ces femmes sont tellement invisibilisées que ça, je ne vois pas très bien comment j'aurais rencontré cette femme-là en particulier. Et dans le roman, il y a des points, enfin, et puis même dans la vraie vie, c'est vrai qu'on peut trouver des points, par exemple avec les vraies personnes que j'ai rencontrées, ben, nous avons ces points communs qui sont ben, d'être étrangère, bulgare. Évidemment, nous n'avons pas la même maîtrise du français, mais ces observations-là, par exemple sur les Français qui auraient des bouches très fines, ça c'est le vrai Dora qui disait ça, et ça me faisait rire puisque moi aussi, peut-être au début, je remarquais ça. Donc voilà, on pourrait, enfin non, tous les Français n'ont pas les lèvres fines, mais c'est vrai que je pouvais comprendre, enfin disons qu'on se retrouve comme ça, un même endroit d'où on pouvait se comprendre. Voilà. Après, dans le roman, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se rencontre, et qu'est-ce que je peux produire de cette rencontre, ou en tout cas, moi, ce que ça m'a appris en tant que, enfin, ce que ça m'a appris, c'était justement de comprendre les motivations de ces femmes, les conditions où elles se trouvent, de mettre des nuances, de casser mes stéréotypes à moi sur elles. Et c'est ça que je voulais transmettre en écrivant ce livre. Mais dans le roman, l'étudiante, elle apprend à filmer et puisqu'elle n'a pas la langue, elle comprend toujours des trucs à côté. Elle se dit qu'elle ne va pas parler, elle va filmer. Et du coup, ça va être pour elle une manière de s'émanciper et aussi de rendre visible cette autre femme. Voilà.
Merci. On a encore le temps pour une autre petite question, je pense, avant que Blandine intervienne pour donner le clap de fin. Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour votre livre. J'interviens en tant que spécialiste de l'interculturel et des biographies langagières. Et je voulais savoir si vous aviez fait un recueil de travail très personnel sur votre rapport aux expressions en français, du point de vue linguistique, nos expressions idiomatiques, nos images métaphoriques dans la langue. Et de l'autre côté, votre équivalent en bulgare, est-ce que vous avez fait ce chassé-croisé? Et en termes de représentation culturelle également, quand vous percevez les Français de cette manière à votre arrivée en France, puisque en français langue étrangère, on accueille des écrivains aussi comme ça qui s'expriment après en français. Et l'idée de cette pratique de la biographie langagière, c'est votre rapport aux deux langues, et notamment ici, votre langue d'adoption par rapport à l'écriture. Enfin, vous êtes aussi francophone, bien sûr, hein, venant de Bulgarie, mais justement, je voulais interroger votre rapport à la langue française, du début jusqu'à vos écrits dans l'interculturel et la maîtrise du bulgare et du français, et des images que la langue évoque. Parce que vous faites un travail vraiment sur la langue et les expressions idiomatiques. Moi, ça m'a beaucoup interpellée dans votre passage. Et je voulais savoir, voilà, si vous aviez eu cette pratique de la biographie langagière, ce qu'on appelle en recherche l'écriture vraiment de l'interculturel. Quand on apprend une langue étrangère, quelle qu'elle soit, et quand on a un passage d'une culture vers une autre, enfin, comment on observe les faits culturels, les comportements du pays qu'on adopte, enfin, voilà, en y venant, plus que d'être adopté. Vous voyez, enfin, on inverse en fait toutes les représentations de la langue et des représentations culturelles. Je voulais savoir si vous aviez eu simplement cette pratique de la biographie langagière et si vous aviez été passé par là.
Je ne suis pas très familière avec ce terme, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez faire en théorie et que moi je fais en pratique, dans le sens où forcément que on est très attentif à ça. Enfin, moi je, enfin après de, bah oui, les décalages entre les langues ou les expressions que je ne comprends pas, ou enfin, par exemple pour écrire ce chapitre-là que j'ai lu à la fin et qui est un peu sur la quatrième de couverture, c'est vrai que c'était quelque chose que je vais vraiment récolter au fil des années. Et j'ai même essayé, après, ce qui est très difficile, c'est que, évidemment, maintenant que je fais 20 ans, que ça fait 20 ans que je suis là, en fait, j'ai un peu oublié. Enfin, là, mon français, il a changé. Donc, forcément, il fallait que je fasse aussi tout un travail de mémoire pour trouver, en fait, ces bizarreries de la langue, de se remettre à cet endroit-là.
C'est un journal intime, en
Merci. On a tous bien travaillé. Je vais laisser la parole à Blandine pour finir. Évidemment, vous pouvez retrouver Elisa en dédicace par la suite à côté. Merci encore, Elisa.
Merci.
Merci beaucoup. Effectivement, vous pourrez trouver Elisa en dédicace. Et puis un petit temps festif improvisé, puisque c'était ce très bel événement à clôture, en quelque sorte, notre 5e édition. Je voudrais évidemment remercier. Ah, il y avait une question, pardon. On a raté une question, je suis navrée. Pardon. Alors.
Je vais dire que non, je l'ai écrit avant de savoir que je suis programmée. Mais je connaissais déjà le festival Effraction. Non, c'est une coïncidence.
Je ne sais pas si ça répond.
Peut-être que vous pouvez donner le titre de votre livre.
Odyssée des filles de l'Est. Merci.
Je reviens. Donc, c'était pour vous remercier aussi de votre fidélité au festival. Je voulais évidemment remercier Elisa Georgieva, remercier Djenebou Batili et Genaël Boutouillet pour ce très beau dernier moment du festival. Remercier également Adélaïde et Nathalie qui ont rendu possible cette rencontre entre Elisa et Djenebou. Merci à Johan et Anne-Marie pour la traduction en langue française des signes. Voilà, donc comme je disais, la 5e édition se termine, mais n'est pas complètement terminée, puisque nous prolongeons le plaisir hors les murs. Demain aura lieu une rencontre à la Maison de la Poésie, une lecture performée de l'auteur Simon Johannin, accompagné par Junk 8. Et le lundi suivant, nous nous retrouvons à l'Institut National des Jeunes Aveugles pour une lecture par Thibaut de Montalembert du texte de Valérie Zenati. Voilà, donc on prolonge un petit peu le plaisir. Je voulais aussi vous dire, comme vous le savez peut-être, que la prochaine édition du festival n'aura pas lieu au Centre Pompidou compte tenu de la fermeture prochaine du centre. Donc restez, le festival aura bien lieu, mais restez en alerte sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et n'hésitez pas à utiliser la borne qui est le livre d'or qui se trouve à l'accueil, qui vous permettra de vous inscrire à notre newsletter si en tout cas vous voulez suivre nos actualités et nos nouvelles. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir rester informé de la suite. Voilà, et je voulais également vous dire que nous nous retrouverons le 22 avril prochain dans le cadre d'un rendez-vous des fractions qui aura lieu ici même avec Marie Dariussec, puisque comme vous le savez peut-être, les rendez-vous des fractions, c'est un cycle de rencontres qui accompagne le festival tout au long de l'année. Nous retrouverons également chaque mois le BPI Lecture Club, animé par Sébastien Souchon, qui a lieu donc chaque mois à la bibliothèque. Voilà, donc je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. Je voudrais remercier évidemment tous les collègues qui ont été mobilisés durant ces 5 belles journées de festival, notamment tous mes collègues du service développement culturel et actualité, mais aussi du comité et fraction, les collègues de la communication, du développement des publics. Un spécial merci à notre équipe de régisseurs, Renaud, Cyril, Quentin, Jérôme, Alexandre, Jérémy. Bien sûr, tous nos artistes, tous nos invités qui nous ont fait vivre, de très beaux moments de rencontres, de débats et puis de lectures, comme on a pu le voir ce soir. Voilà, donc merci beaucoup. On retrouve Elisa en dédicace et on a un petit temps convivial si vous voulez partager avec nous la fin du festival. Merci beaucoup et à l'année prochaine, j'espère.